Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
À la une, ce drame qui a coûté la vie à 8 élèves qui revenaient de l'école hier à Bukavu à bord d'un minibus scolaire. Ils ont été fauchés par un grand camion qui roulait à vive allure. Le chauffeur qui les conduisait lui aussi est mort. Reprise des combats hier entre les FARDC et le M23 autour de Ntamugenga dans le Rutshuru au Nord Kivu. C'est après une accalmie observée sur la ligne de front. Un mouvement massif des populations est observé vers la route Goma-Rutshuru, rapportent plusieurs sources sur place. Et puis, l'invité de ce matin, Maître Awazi Sabiti, défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kindu, y dénonce notamment les antivaleurs qui gangrènent le secteur judiciaire dans la province du Maniema. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. 8 élèves qui revenaient de l'école n'ont pas pu arriver à domicile hier à Bukavu. La mort les a surpris en cours de route. Ils sont décédés au cours d'un accident de circulation dans la commune de Kadutu. Le minibus scolaire qui les transportait est entré en collision avec un grand camion qui roulait à grande vitesse. Seuls 4 d'entre eux ont eu la vie sauve. Le chauffeur du minibus est aussi mort. Emmanuel Elameji nous relate les faits.
C'était en début d'après-midi de ce mardi 28 juin que la nouvelle s'est répandue sur la ville de Bukavu. Plusieurs familles sont inconsolables. Une dizaine d'enfants, tous écoliers à SOS Village d'enfants, sont morts dans un accident de circulation dans la commune de Kadutu. Le bus scolaire s'est retrouvé totalement en dessous du camion en provenance de Walungu pour le centre-ville. Il a fallu des engins spécialisés pour séparer les deux véhicules et sauver ce qui pouvait l'être. Sur place, 8 écoliers et leur chauffeur sont morts dans ce drame. Une famille a perdu 2 de ses enfants. 3 autres écoliers, eux, sont sortis indemnes, tandis que un d'entre eux est grièvement blessé. Ces enfants, tous d'une dizaine d'années, revenaient de l'école où ils venaient de présenter les examens de fin d'année scolaire.
Écoutez les témoignages de cet enseignant des enfants.
Cet accident qui vient de se passer, il s'agit bien de mes élèves, mes propres élèves que j'enseigne régulièrement. Ils sont de l'école SOS Bukavu, qui revenaient à peine de faire leurs examens, qui revenaient de l'école. Je ne sais quoi vous dire pour le moment, je suis inconsolable, ça ne va pas.
L'excès de vitesse serait la principale cause de ce drame. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
À Bounia, cet incendie du bâtiment du programme élargi de vaccination PEV, bâtiment où sont conservés des vaccins destinés aux 3 territoires de la province de l'Ituri. L'origine du feu reste inconnue. L'incendie est survenu dans la nuit de lundi à hier mardi. Les sources médicales parlent de près de 2 millions de dollars des dégâts enregistrés. Autre conséquence, 23 zones de santé sur les 36 que compte cette province sont désormais privées des vaccins contre plusieurs maladies. Jean-Claude Loki, reportage.
Parmi les vaccins calcinés, il y a entre autres les vaccins contre la COVID-19, la poliomyélite, la rougeole, la coqueluche, la fièvre jaune ou encore la tuberculose. Au total, ce sont des milliers de femmes ainsi que des enfants qui sont désormais privés de vaccins contre 13 maladies, nous a confié un médecin. Les 7 congélateurs, la chambre froide et des frigos qui servaient pour la conservation de ces vaccins sont également partis en fumée. Un agent rencontré sur place parle également du mobilier de bureau, dont des ordinateurs, des correspondance et un générateur réduit en cendres. Malgré le secours du véhicule anti-incendie de la MONUSCO, le feu n'a pas été maîtrisé à temps, a déclaré un habitant. Cette situation risque de pénaliser les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa si rien n'est fait dans l'urgence pour doter la ville de Bounia d'une nouvelle chambre froide et de vaccins. On risque d'assister à la résurgence de certaines maladies qui sont pourtant déjà maîtrisées, nous a confié une autorité médicale. Et pour l'heure, personne ne sait se prononcer sur l'origine de cet incendie. D'autres évoquent la piste d'une surcharge du courant électrique. Bounia, Jean-Claude Loki, Dilet, Radio Okapi.
Parlant de la tuberculose, notez que plus de 10 nouveaux cas sont notifiés en l'espace de 3 jours dans la prison centrale de Bounia, ce qui porte à 100 le nombre des détenus affectés dans cette prison qui héberge actuellement plus de 2000 personnes. C'est ce qu'a déclaré hier le responsable provincial du programme de lutte contre la tuberculose qui a lancé le week-end passé une campagne de dépistage de cette maladie dans cette prison. Selon le docteur Justin Moukonkole, il y a un déficit dans la prise en charge des patients qui souffrent de cette maladie qui se propage vite. Il lance un appel aux autorités pour la construction d'une salle d'isolement des malades et la mise en place d'un système de contrôle des détenus. Le docteur Justin Moukonkole explique au téléphone de Ezekiel Mouzalia.
Nous avons habituellement autour de 43 malades sous traitement, mais cette moyenne-là est passée de quarantaine à plus de 90 cas. Donc maintenant, là, nous avons 97 cas de tuberculose qui sont sous traitement. Il aurait fallu que le détenu soit screené à l'entrée de la prison. Ça veut dire chaque prisonnier, avant d'entrer, on doit rechercher la tuberculose. Et s'il en a, on le soigne. S'il n'en a pas, c'est une bonne chose. Dans le sens que les autorités doivent penser à doter la prison, et si pas la prison, la coordination des outils de diagnostic est beaucoup plus performant pour qu'on arrive à contrôler la tuberculose dans les milieux carcérales. Parce qu'il n'y a pas que Bounia, il y a la prison de Mambasa où la situation aussi est catastrophique. Mais avec la prison de Bounia, nous avons des cas de tuberculose pharmaco-résistante. Parce que si vous regardez le nombre de cas, vous les ramenez par rapport à la population carcérale, la situation est plus grave encore là-bas.
Si allons qu'au cours du premier trimestre 2022, l'Itouri a notifié plus de 2800 cas de tuberculose dont une forte prévalence est observée dans les maisons carcérales. Je vous le disais en titre, après une accalmie observée jusque-là sur la ligne de front au nord Kivu, les combats ont repris hier matin entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 dans les environs de Ntamugenga, groupement de Bweza, territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources dans la région, un mouvement massif des populations fuyant vers la route principale Goma-Rutshuru a été observé. Récit des faits avec Bernard Denyangi.
La situation s'est calmée progressivement dans la zone de Ntamugenga après des détonations d'armes lourdes et légères entendues autour de la colline de Bikona vers 8h locales ce mardi. Selon certaines sources militaires dans le territoire, l'armée congolaise a repoussé cette attaque des rebelles qui auraient tenté de prendre le contrôle de cette localité stratégique de Bikona. Toutefois, la zone reste presque vidée de sa population civile. Selon les sources de la société civile et administration coutumière locale, les habitants de la zone ont constaté tôt le matin le mouvement de combattants de la rébellion du 1-23 venu probablement de Ruvumu, groupement de Kisigari, et qui contournait en passant par les collines Nyaruondo pour déboucher vers les villages Bushandaba et Ruseke, ce qui a causé la panique, poussant les habitants de quelques villages de la localité de Ntamugenga et environ à se déplacer vers Kako, Kalengera et Rubare, environ 15 km plus à l'ouest. Ces sources regrettent qu'à Rutshuru, certains civils auraient été empêchés par le M23 de quitter le village. Pour leur part, les sources de la MONUSCO précisent que les troupes de casques bleus déployées dans la région ont été placées en état d'alerte. Goma, Bernardin Aguirre, Radio Okapi.
Et puis ce don de la MONUSCO au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Il est composé de 6 véhicules, des caméras photo et vidéo, des appareils de prise de son ainsi que du mobilier du bureau. Kassim Diag, représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la mission, a remis officiellement ses équipements hier à Kinshasa au coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambwe. Ce dernier a salué ce geste qu'il place dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les deux structures et mis en exergue l'accompagnement continu dont jouit le PDDRCS de la part de la MONUSCO. Tommy Tambwe au micro de Honoré Missenga Kalala.
Nous avons commencé les évaluations ensemble avec la MONUSCO. Nous sommes allés pratiquement dans toutes les provinces prioritaires. Nous avons 5 provinces prioritaires. Nous avons procédé à l'élaboration de la stratégie. Nous avons été avec la MONUSCO. Nous avons été dans le Tanganyika pour l'opérationnalisation du PDDRC et le retrait de la MONUSCO dans cette province. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer, encore une fois, avec la MONUSCO et tous les partenaires de la communauté internationale, le plan opérationnel national. Déjà, cette étape va être validée d'ici quelques jours, mais également, il y a la préparation qui a commencé depuis un certain temps pour l'élaboration des plans opérationnels provinciaux. Et c'est toujours avec la MONUSCO.
Pour sa part, le représentant spécial adjoint Kassim Diag a signalé que le 4 juillet 2022, le PDDRCS totalisera une année d'existence et souligné qu'un grand espoir a été placé en ce programme pour une contribution décisive à la paix, la stabilité et le développement dans l'Est de la RDC à travers le désengagement définitif des groupes armés et leur réinsertion durable. À Beni, signalons l'ouverture hier d'un atelier de formation de 2 jours au bénéfice des officiers militaires, de la police ainsi que les acteurs de la société civile sur les droits de l'homme, appuyé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette formation vise à outiller ces derniers sur des notions de droit international humanitaire et des droits de l'homme de manière générale. Des détails avec Marc Maroufimbo.
Cet atelier vise à sensibiliser et renforcer ces acteurs en matière du respect des droits dans cette zone affectée par des violations armées, facteur qui favorise la violation des droits de l'homme et droit international humanitaire. Le rôle de la justice est capital pour ce faire en vue de faire respecter la loi en la matière, affirme la conseillère du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur présente dans la salle.
La lutte efficace contre la violation des droits de l'homme ne peut être effective que si, et seulement si, la justice joue son rôle, car aucune lutte contre toutes sortes de violations de droits de l'homme n'est possible sans une justice libre et indépendante.
Ces notions de droits de l'homme doivent être connues, respectées et faire respecter, a indiqué Abdourahmane Ganda, représentant du chef de la MONUSCO Beni.
La MONUSCO a jugé indispensable de soutenir la tenue de tels ateliers afin que les différents membres du comité de suivi des violations des droits de l'homme puissent être mieux outillés ainsi pour mieux les connaître, les respecter et les faire respecter.
Signalons que lors de cette activité, les cas de violations des droits de l'homme attribués aux éléments des FARDC et de la police seront passés en revue par les services de l'éducation civique, patriotique et des affaires sociales de l'armée SECAS sur base des résultats de monitoring du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Justice. Au procès de François Béaï Consort, une courte audience s'est tenue hier à la Haute Cour militaire où tous les quatre prévenus ont comparu. Seul l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité était absent. Selon son conseil, François Béaï craint pour sa sécurité. La Cour a décidé de poursuivre l'instruction du fond de cette affaire le vendredi prochain à la prison centrale de Makala. À cette même audience, elle devra aussi se prononcer, selon la défense, sur la nouvelle demande de mise en liberté provisoire des prévenus. Hier, dans nos éditions du matin, nous vous parlions du poste frontalier d'Ishasha, 60 km au nord-est du chef-lieu de Rutshuru, qui est de plus en plus sollicité par les importateurs et exportateurs du Nord Kivu. Depuis que Bunagana est aux mains des rebelles du M23, ce matin, nous vous proposons un autre coup de projecteur qui concerne cette fois le poste frontalier de Kassindi-Lubiria, situé à environ 90 km au nord-est de Beniville. Il est stratégique dans le commerce transfrontalier entre le Nord Kivu et les pays frontaliers de l'Est de l'Afrique, dont l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Ce poste frontalier est la voie d'exportation et d'importation de plusieurs marchandises. L'importance du poste frontalier de Kassindi-Lubiria avec vous, Martial Papimukeba.
Situé dans le secteur des Rwenzori du territoire de Beni, le poste frontalier de Kassindi-Lubiria est l'un des plus importants du pays. Il ouvre la voie à l'Afrique de l'Est et à l'océan Indien à partir du district ougandais de Kasese. Les recettes douanières au niveau de ce poste frontalier varient entre 2 millions et 3 millions de dollars américains chaque mois selon des sources de la direction des douanes et assises. Les recettes à l'importation sont beaucoup plus accrues qu'à l'exportation, précise notre source. Les cacao, les cafés, les quinquina, la papaïne, les bois et la mitraille de fer sont les marchandises les plus exportées à partir du poste frontalier de Kassindi-Lubiria. Les ciments gris, la farine du blé, les savons, l'huile végétale, la cigarette, les produits pharmaceutiques et les matériaux de construction sont là les produits importés à partir de ces postes frontaliers. Les produits importés sont consommés dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et de la Tchopo. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, quelques cargaisons des marchandises sous douane lors de l'occupation du poste frontalier de Bunagana par la rébellion du M23 restent bloquées jusqu'à ce jour à ce poste frontalier. L'association congolaise des commissionnaires agréés en douane, ACAD Nord Kivu, demande au gouvernement congolais d'entamer auprès du gouvernement ougandais les procédures de rappel des marchandises sous douane consécutivement à la législation douanière. C'est pour permettre aux propriétaires, opérateurs économiques, d'accéder à leurs marchandises. Ce plaidoyer a été lancé 2 semaines après l'interdiction par le gouverneur du Nord Kivu de toute importation et exportation des marchandises à partir du poste frontalier de Bunagana qui est sous occupation du M23 depuis le 13 juin dernier. Délience Tchongo Matata, président provincial de la CAD, explique la situation au micro de Denise Lukeso.
Cette marchandise qui est venue de l'Ouganda vers la RDC, mais comme la RDC comme État a bloqué la douane de Bunagana, c'est-à-dire cette marchandise ne peut plus évoluer. Alors, pour que cette marchandise ne puisse pas rester stagnée là-bas, la douane avec l'administration ougandaise peuvent rappeler cette marchandise. Alors, cela maintenant doit se faire, c'est à partir de la FEC, pour que cette marchandise-là soit rappelée en Ouganda, maintenant pour être conduite dans une autre douane.
Il y a des frais lorsque les marchandises sont rappelées au pays d'où elles sont venues, dans ces cas ici par exemple.
Malheureusement, en matière de douane, tout acte correspond à un paiement.
À la charge de qui ?
à la charge de l'opérateur économique, malheureusement, du dernier consommateur. Parce que l'opérateur économique, lui, il calcule son prix de vente, c'est à partir des charges qu'il a subies.
Actualité internationale.
La tension monte encore à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie sur une zone revendiquée par les deux pays. Selon un responsable éthiopien cité par l'agence Reuters, les forces soudanaises auraient tiré à l'artillerie lourde lors des affrontements dans la région. Les deux pays sont dans une querelle de longue date concernant leurs frontières. Khartoum ayant rappelé lundi son ambassadeur à Addis Abeba après avoir accusé l'Éthiopie d'avoir exécuté 7 soldats et un civil soudanais.
L'invité.
Nous recevons Maître Awazi Sabiti, défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kindu. Il dénonce notamment les antivaleurs qui gangrènent le secteur judiciaire et le manque des juges qui handicapent le travail dans la province du Maniema. Maître Awazi Sabiti s'entretient avec Florence Kizalunga.
Maître Awazi Sabiti, Osiris, bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous de vos relations avec les justiciables ces jours.
Nous, comme défenseurs judiciaires, je pense que les relations vont mieux, mais néanmoins, je dirais que les justiciables actuellement sont victimes des rançons au niveau des juridictions judiciaires. Et je l'ai dit pourquoi, parce qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse poser son action, donc accuser quelqu'un au niveau de la justice, pas moins de 100 000 francs congolais, comme appelé frais de transport, frais de motivation, enregistrement des plaintes et une somme d'argent laquelle n'est pas prévue nulle part par la loi. Et en même temps, vous allez aussi observer, après qu'il ait amener son action en justice, c'est dès qu'on va appréhender les prévenus. Vous comprendrez avec moi, madame, que les prévenus seraient relaxés sans que ces derniers puissent être rétablis dans ce droit le plus légitime.
Vous avez des cas concrets ou bien on vous a relaté ou vous avez vécu vous-même?
Non, étant praticien, moi je pense que j'ai des cas concrets. Nous avons les cas d'ailleurs qui vient de se passer chez le magistrat au parquet général. Il vient de relaxer un papa qui a autorisé son fils à prendre à mariage une fille de 13 ans. Et le magistrat lui-même lui a dit d'amener la fille. Il lui est amené. Mais malheureusement, ce dernier est relaxé. On ne sait pas par quelle magie. Alors qu'il est noir, sur blanc établi qu'il est complice de viol. Il y a autre aussi, une personne condamnée de viol pendant 10 ans par le tribunal de grande instance de Kasongo. Mais il a été relaxé toujours par les mêmes magistrats. Donc, vous comprendrez avec nous que aujourd'hui, si on a l'argent, on peut tout faire et à n'importe quand, on peut être relaxé.
Je pense que cette situation peut amener les gens à une justice privée, comme on a toujours dit.
Mais effectivement, quand quelqu'un apporte son action au niveau de la justice et que ce dernier n'est pas rétabli dans ses droits les plus légitimes, il va faire recours à l'agence privée parce qu'il trouve qu'avec ça, il peut peut-être arracher ses droits au lieu d'aller à la justice. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas aller se plaindre à la justice.
Mais il y a d'autres qui sont arrêtés et qui sont même à la prison centrale.
Effectivement, madame, ce que vous dites est vrai parce que moi-même, je suis passé à la prison et j'ai trouvé presque 30 à 50 personnes qui souffrent dans la prison centrale, arrêtées et transférées au tribunal de garnison militaire de Kindu par l'auditeur de garnison. Ils sont là, il y a même ceux qui ont donné leur argent pour recouvrer leur liberté provisoire, mais on dirait non, ils sont sous l'ordonnance de renvoi. Madame la journaliste, ça c'est inconcevable. Est-ce que l'ordonnance de renvoi est une décision judiciaire? La réponse est non. Pas moins de 20 personnes qui ont déjà réalisé 8 mois sous l'ordonnance de renvoi. Donc jusque-là, ils n'ont pas encore connu le sort définitif.
Pourquoi?
Bon, on dirait il y a manque de juges parce que la prison, ce n'est pas une maison à location. Hein? Il jouit encore de la présomption d'innocence jusqu'à l'heure actuelle.
Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas de juge à l'auditorat?
On a affecté les juges au niveau du tribunal militaire de garnison de Kin. Et on ne sait pas pour quelles raisons il est parti et laissé les paisibles citoyens en train de souffrir dans la prison centrale de Kin. Même s'il faisait une année, deux ans, parce qu'il y a ordonnance de renvoi, ils vont continuer à souffrir parce qu'il n'y a pas les juges. Voilà pourquoi je suis parti demander au premier président s'il y aura une solution intermédiaire, ou soit qu'on les relaxe, ou soit qu'on les défère devant une autre juridiction et chacun puisse connaître son sort. Voilà pourquoi on ne pouvait que venir rehausser une deuxième voix à la radio Okapi pour que ceux qui vont nous écouter puissent du moins comprendre que les gens sont en train de souffrir gratuitement au niveau de la prison centrale de Kindu.
Par manque de juges.
Effectivement, par manque de juges. Parce que s'il y avait des juges, certains d'autres pouvaient déjà recouvrer leur liberté. Si néanmoins, la loi pouvait observer qu'ils n'ont rien fait.
un mot aux autorités nationales parce qu'elles nous écoutent. Le juge est parti, il n'y a pas moyen de recruter ou bien d'engager un autre.
Voilà pourquoi il y a raison parfois de mettre les gens, les natifs. C'est pour éviter ces genres de comportements. Mais je vais faire appel aux autorités nationales, disons, de tout faire parce que si ce n'est pas ça, les gens risquent de mourir gratuitement là-bas sans qu'il y ait une décision judiciaire à leur égard. Il y a des propositions. Soit on envoie un juge qui va rester localement ici, ou soit on défère ces gens devant une autre juridiction pour qu'ils puissent connaître leur sort.
Maître Awazi Sabiti, merci.
Merci, madame.
Notre invité, défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kindu, répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo, Polydor Basunga à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.